Survival Initiative lancée par l'opposant Maurice Comteau pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus. C'est la fin de ce bulletin. Merci pour votre écoute.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Amérique et vous. On parle ce soir de l'avenir du tourisme international après le coronavirus. Malgré la progression du Covid-19, plusieurs pays rouvrent progressivement. Dans une Europe où les chiffres s'améliorent chaque jour, la pression monte pour une réouverture coordonnée des frontières. L'Italie pousse à une reprise concertée des déplacements en Europe le 15 juin, qui pourrait devenir le D-Day du tourisme. Ici aux États-Unis, par exemple, de nombreux casinos de Las Vegas vont rouvrir la semaine prochaine pour accueillir les premiers touristes après plus de 2 mois d'inactivité. Eric Mandela-Kizar avec vous, Lionel Mandela-Gaïma, assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. Nous avons 3 invités dans cette discussion pour parler de la reprise du tourisme dans le monde. Ici aux États-Unis, Claire Galpin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pro-voyage, n'est-ce pas?
Ah oui, je suis pro-voyage, voyage professionnel, mais voyage personnel également.
On va essayer de voyager virtuellement au-delà de l'Atlantique à Venise, Audrey Di Futia. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Eric. Moi je suis à Venise en ce moment dans le centre historique, mais le petit hôtel que je dirige est au milieu de la lagune vénitienne.
J'espère que je n'ai pas massacré votre nom.
Non, c'est pas grave, on va vite oublier.
À Paris, la ville des Lumières, se trouve Fabio Casilli.
Absolument. Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Bien, merci, merci de votre invitation. Et moi, je suis ici ce soir avec une double casquette, à la fois celle de voyagiste et à la fois celle de président d'une organisation internationale qui est née au début du confinement pour le Covid. Et c'est une association des professionnels du voyage pour imaginer le tourisme de demain.
Merci donc à tous pour avoir accepté notre invitation. Fabio, vous le disiez tout à l'heure, vous avez créé une association internationale pour réfléchir sur le tourisme d'après le Covid-19. Est-il possible de relancer le tourisme international avant 2021?
Moi, personnellement, je suis persuadé que oui. Je pense qu'il faut passer par différentes étapes et je pense surtout qu'il faut prendre conscience de ce que cette pandémie nous a montré, c'est-à-dire les limites que nous avons et en tenir compte pour adapter l'offre touristique à cette nouvelle situation, notamment d'un point de vue sanitaire.
Audrey?
On est en train de se réorganiser pour ouvrir le 1er juin. Donc le resort où nous sommes est un restaurant étoilé qui s'appelle Venice. Et on a aussi des chambres qui s'étendent à la fois dans notre vignoble, parce qu'on produit aussi du vin, et sur l'île de Burano. Donc on se prépare à la réouverture avec toutes les mesures de sanitaires et puis aussi donner une assistance le plus agréable possible. Malgré ces mesures qui sont strictes et qui doivent être observées rigoureusement.
Vous êtes donc exploitante d'établissements d'hébergement touristique. Quelles sont les mesures sanitaires mises en place pour éviter la propagation du virus au-delà des mesures déjà connues?
Alors, eh bien, il va falloir la protection de nos hôtes, donc à l'arrivée, contrôler les arrivées et faire en sorte qu'ils soient le plus distants possible les uns des autres. Donc les tables, par exemple, dans le restaurant seront espacées de 1 mètre. Les tables où des gens de la même famille seront chez nous doivent être à côté, ils pourront être à côté l'un de l'autre, bien que les amis et les gens qui ne se connaissent pas devront maintenir toujours une distance de 1 mètre. Donc ce qui est pas facile parce que bien sûr ça nous a enlevé des tables et notre capacité d'accueil. Et sinon, eh bien, pour le moment, on est toujours avec les masques jusqu'à l'arrivée au restaurant. Et une fois assis, les gens pourront enlever leur masque. Voilà. Donc, désinfectant à l'entrée et à la sortie, un petit peu de partout. Et les entrées et les sorties doivent être distinguées. Ça ne peut pas être la même dans la mesure du possible. Donc, c'est toute une organisation très, très, très rigoureuse à tenir.
Claire, vous avez dit tout à l'heure que vous aimez les voyages personnels. Je sais que vous prenez les vacances chaque année. Est-ce que vous avez toujours le même envie ?
Oui, toujours envie de voyager, peut-être différemment, peut-être plus lentement, de façon plus respectueuse. Des histoires d'empreintes carbone, comme je suis plutôt dans la catégorie aventurier, je suis plus décontractée par rapport à la distanciation sociale, puisque je peux la respecter de façon différente en m'échappant un peu de la foule.
Est-ce que avez-vous une certaine peur aujourd'hui qui vous pousserait peut-être à ne pas voyager selon vos prévisions ?
Bah, actuellement, je ne voyage plus ni professionnellement ni personnellement parce que les frontières sont fermées. Mais non, je ne suis pas d'une nature anxieuse. Et donc, comme je me plais à le répéter de façon récurrente, la peur n'évite pas le danger. Donc, je prends des mesures sanitaires, sanitaires pour me protéger entre le masque, l'eau de Javel et la distanciation, les gestes barrières.
Oui, Fabio, tout à l'heure, vous dites que vous avez l'espoir de reprendre des activités touristiques, mais il y a une question essentielle, le transport aérien.
Oui, le transport aérien, c'est une grande question parce que, en fait, moi, pour reprendre un peu ce qu'il disait Claire, ce qui me fait peur, ce n'est pas tellement les virus en eux-mêmes, c'est les manques de communication qui nous font nos gouvernements et les manques d'information. On ne sait pas trop quelles sont les mesures obligatoires, les mesures les plus prudentes à tenir. On nous change des discours tous les jours. Et c'est un peu la même chose aussi pour les compagnies aériennes. Donc les compagnies aériennes vont, paraît-il, prendre des précautions en alternant un siège sur deux, en mettant des protections entre les différents sièges, mais est-ce que cela, d'une part, va être efficace? Est-ce que, d'un autre côté, cela ne va pas risquer de faire grimper les prix de manière considérable? Moi, personnellement, dans un premier temps, en tout cas, et pendant les mois à venir, je pense que je préconise, à titre personnel, des moyens de transport autres que l'avion, comme les trains par exemple, qui sont peut-être avec des espaces un petit peu plus maîtrisables. Voilà.
Mais là, c'est dans le contexte, disons, européen. Ceux qui se trouvent aux États-Unis, ils peuvent utiliser d'autres moyens de transport. En Afrique même, sans toutefois utiliser l'avion. Mais le tourisme tel qu'il fonctionnait avant, est-ce que vous pensez que c'est possible de le relancer ?
Je pense qu'il faut qu'il y ait maintenant une vraie prise de conscience. Avec la situation que nous avons créée, c'est justement sur ça que nous allons réfléchir. Nous avons commencé à penser à différentes alternatives. Nous avons fait des groupes de travail aussi sur les nouvelles mobilités. Et voilà, je pense que le tourisme pourra revenir à quelque chose de semblable à ce qui était auparavant, à condition d'être durable et éco-responsable. Ça ne pourra pas être autrement.
Audrey, est-ce que vous avez remarqué une baisse des réservations ?
Alors, au début, au tout début du confinement, bien sûr, une grande vague d'annulations qui ont suivi ensuite par une prise de conscience de notre part qu'il allait falloir relancer un petit peu le marketing et la machine avec d'autres offres. On a créé des bandes qui permettent aux clients de venir à des tarifs intéressants tout en supportant la réouverture de notre restaurant et du wine resort. Et les réservations sont en train de repartir très fort du côté italien parce que les bandes ont été achetées pour le moment à environ 90% par une clientèle italienne, dont 70% du Veneto, donc toute la région autour de Venise. Maintenant, on commence à voir des demandes de la part des Allemands, Autriche, France. Vers septembre-octobre, on repart avec les demandes de devis de la part de clients américains.
Il y a des Américains qui viennent.
Il y a des Américains. On espère qu'ils vont pouvoir arriver. On sait qu'il y a des vols de New York qui vont arriver directement sur Rome. Donc ça nous ouvre pas mal de possibilités.
Pas de touristes africains?
Pour le moment, on n'a pas trop de demandes. C'est pas vraiment, on n'a pas vraiment du côté du continent africain, je dois dire. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de demandes pour le moment. On travaille avec l'Égypte, pas mal. On travaille avec le Maroc aussi. Mais pour le moment, on n'a pas de, j'ai pas eu de signe encore de ce côté-là. Donc j'espère que ça va vite se débloquer aussi.
Claire, la plupart des fois, vous aimez prendre la route, n'est-ce pas? Est-ce que vous passez par des agences touristiques ou vous vous débrouillez toute seule pour trouver où aller?
Eh bien, je suis de la catégorie de ceux qui se débrouillent tout seuls, qui aiment voyager de façon plus indépendante, même si certaines agences proposent parfois des choses intéressantes dans des groupes beaucoup plus restreints. Mais j'aime partir le nez au vent et ne pas me sentir enfermée dans un cadre lorsque je voyage pour mon plaisir ou avec ma famille.
Fabio, il faut la convaincre pour une fois essayer les agences de voyage.
Je pense que cette pandémie nous a bien rendu service à ce niveau-là. Parce que les clients qui se sont trouvés à l'étranger au moment du confinement et qui étaient partis un peu tout seuls, très souvent ont eu de grosses difficultés à être rapatriés. Alors que les agences de voyage avaient quand même une certaine technicité, une certaine connaissance, une certaine expérience. Ils savaient comment faire, à qui s'adresser et ça a été beaucoup plus facile à ce niveau-là.
Vous écoutez l'Amérique et vous, Eric Manirakis avec vous. On parle de la reprise du tourisme international. Nous revenons dans un instant.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Voilà, quelques auditeurs sur le continent africain ont essayé de donner leurs commentaires sur cette question. Il y a Bouddha Bernard qui se trouve au Burkina Faso qui dit « Après le coronavirus, le tourisme international sera amené à attendre des années, voire même des décennies, pour que l'économie touristique puisse remboîter le pas au succès économique, à la reprise économique des pays. Il y a Ad Az qui dit « Le monde après le coronavirus, c'est un monde des peurs et de risques ». Audrey, un commentaire sur ce point de vue?
Écoutez, moi je suis née positive. Et donc, je continue à penser qu'en effet, il va falloir voyager différemment avec des précautions, mais les compagnies aériennes sont en train de s'organiser. Toute la filière du tourisme s'organise. Je pense que le monde ne peut pas s'arrêter. Il va falloir que ça continue. Je crois beaucoup aussi en la science. Hein. J'espère qu'on va trouver un vaccin, qu'on va trouver des soins. On a vécu d'autres pandémies hein, au cours de notre histoire et on l'a toujours dépassé. On est toujours, reparti plus fort. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité pour faire différemment, pour prendre soin de notre planète Et donc moi, je ne crois pas en une vision aussi négative. D'un point de vue économique, je pense que petit à petit, les choses vont reprendre. Il y a de nouveaux business qui ont été créés, de nouvelles idées. Et donc, je crois qu'il faut tenir bon, être tous solidaires et être très proches les uns des autres. Et je pense que ça va repartir. Ça ne va pas être immédiat, mais je pense que dans les 2-3 prochaines années, ça pourrait revenir pas aussi fort qu'avant, peut-être un peu différent, parce que beaucoup de sociétés dans la filière du tourisme ont souffert, notamment les compagnies aériennes, low cost, qui certainement vont souffrir ces années, mais je pense que ça va repartir. Donc il faut être positif.
Moi, je pense, comme je disais tout à l'heure, que cette peur est justifiée auprès des personnes, surtout par les manques de communication, les manques d'information. On ne sait pas grand-chose de ce virus, on ne sait pas grand-chose de comment il est arrivé, on ne sait pas grand-chose sur comment le soigner. Donc, je pense que c'est un peu dans la nature humaine d'avoir peur de l'inconnu, et c'est pour ça qu'on a ce type de réaction.
Claire, un petit commentaire ?
Un commentaire, on va peut-être s'inspirer des Tibétains en disant que le voyage est un retour vers l'essentiel, donc on espère retourner vers l'essentiel et que qui nous apprend la tolérance, c'est bien pour le monde de demain.
Quels sont les pays les plus attractifs au niveau du continent africain ? Ou intéressant au niveau touristique?
L'Afrique est un continent de toute façon qui a à mes yeux un charme fou dans l'absolu. Donc après, ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Il y a des gens qui vont rechercher peut-être le côté plus balnéaire, et donc ça sera plutôt la partie du Maghreb. Moi personnellement, je suis très attiré par contre par des pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Cameroun. J'aime bien l'Afrique noire, j'aime bien les contacts avec les gens, j'ai beaucoup d'amis aussi sénégalais, voilà.
Claire, vous avez fait, disons, l'Amérique du Nord, où vous connaissez aussi beaucoup de pays africains. Voudriez-vous nous dire, par exemple, ce qui vous a plu à...
Alors moi, je peux repartir en voyage avec Fabio. Là, on a des destinations en commun intéressantes et pleines de richesses humaines. Mais je pourrais ajouter des pays peut-être plus marginalisés par le domaine du tourisme, comme l'Algérie, qui est un pays merveilleux, avec des gens merveilleux et très accueillants. Et une variété de paysages extrêmement intéressants. Ou des plus petits pays comme le Burundi, par exemple, qui est un pays tout à fait charmant, avec des gens charmants, même si parfois la situation politique n'est pas forcément la plus simple. Et puis, je pense également au Mali, où malheureusement, il est maintenant difficile de voyager, tout comme au Burkina Faso.
Oui, l'impact a été très, très dur. Il y a des pays, la plupart des pays africains notamment, qui cherchaient à diversifier leurs sources économiques. Ces pays où on misait beaucoup sur le tourisme, et avec le contexte actuel, tout semble tomber à l'eau.
Disons qu'une fois de plus, maintenant, il faut repenser le tourisme. On ne pourra plus viser sur le tourisme qu'on connaissait avant cette crise, qui a été très violente, qui a été quelque chose de dévastant, qui a anéanti des pans entiers de l'économie, et particulièrement de l'économie touristique. Donc je pense que le tourisme, une fois de plus, peut repartir à condition qu'ils tiennent compte de ce qui a pu se passer récemment.
Il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de pertes en vie humaine, et surtout dans la catégorie de personnes qui voyageaient chaque année. Audrey, est-ce que vous pensez, si on revoyait les prix à la baisse, est-ce que ça peut contribuer à booster encore une fois l'activité touristique?
Alors, je ne sais pas si baisser les prix, ça va être la réponse. Nous, bien sûr, on a revu nos tarifs, mais pas trop non plus à la baisse, parce qu'il faut quand même respecter, on doit quand même payer les taxes, hein. L'Italie, on a
On est au cœur de l'Europe et on est toujours dans l'œil du cyclone, parce qu'on est toujours pris pour le vilain petit canard de l'Europe. Donc, du coup, les taxes sont très, très élevées pour les activités. Et baisser les prix avec des charges de personnel et des coûts fixes, ça, c'est quand même difficile après en maintenir la qualité.
Claire, est-ce que vous pensez que la baisse des prix au niveau des billets d'avion, au niveau des hôtels, etc., et que ça peut encourager les gens à voyager, même ceux qui ne voyageaient pas avant?
Dans la situation actuelle, je ne pense pas que ce soit forcément le facteur qui va être décisif dans la décision de voyager ou pas. Il me semble qu'il va falloir vaincre la peur et de croiser un petit virus à tête couronnée quelque part dans le monde. Et donc, ce sera ça qui va, je pense, plus jouer sur le choix.
Fabio, on parle de la peur, mais on voit que actuellement, les gens, ils n'ont plus cette peur qui perturbait leur quotidien.
C'est un vaste débat, à mon avis. C'est-à-dire que la peur y est, mais il y a aussi une certaine forme d'inquiétude. Et puis, auprès du public français, auprès de la population française, il y a aussi cette volonté presque de vouloir affirmer que je suis plus fort du virus et ce virus ne va pas m'empêcher de mener ma vie comme je l'entends. Et donc, je veux reprendre les choses en main, je veux reprendre ma vie en main. Et je vais la vivre comme je l'entends. C'est parfois risqué, voire irresponsable. Il y a eu des événements en France qui n'ont pas été très glorieux. Néanmoins, je veux donner une interprétation aussi positive et me dire que c'est cette volonté de tourner la page qui va aussi nous permettre d'aller de l'avant et de dépasser ces peurs qui existent encore aujourd'hui et qui sont certes justifiées, mais parfois un peu excessives.
Quel est l'effort du côté des États qui devrait se faire pour justement relancer l'activité touristique?
Les États n'ont pas pris conscience de la situation parce que je pense qu'ils connaissent très mal le tourisme. Le tourisme en France, par exemple, représente 15% du PIB du pays. C'est énorme, représente plusieurs millions d'emplois. Donc c'est quand même un secteur important et pour autant, il n'y a pas connaissance de cela. Aujourd'hui, quand on entend parler l'État et qu'il parle du tourisme, il parle surtout du tourisme réceptif, donc du tourisme qui accueille des étrangers en France. Mais le tourisme, ce sont aussi les agences de voyage qui ont pignon sur rue et qui font partir les gens aussi à l'étranger et qui brassent beaucoup d'argent également, qui rentrent dans les caisses de l'État français et qui surtout emploient énormément de personnes. Ces gens-là aujourd'hui se sentent laissés pour compte parce que effectivement tout discours de la part de l'État est un discours qui vise principalement le tourisme réceptif. Donc c'est ça qui est très difficile et c'est ça aussi que, si je peux me permettre d'en parler un instant, je respire le tourisme de demain, l'association que nous avons démarré, nous essayons de faire. C'est-à-dire, nous essayons de faire un état des choses, nous essayons de prendre le pouls de la situation et de voir quelles pourraient être les améliorations et les solutions à y apporter en vue de pouvoir faire également un livre blanc à pouvoir présenter aux autorités françaises.
Merci, nous arrivons au terme de cette émission. Merci Fabio Casilli. Je rappelle que vous dirigez une association que vous avez créée pour réfléchir sur le tourisme d'après le Covid-19. Merci pour votre contribution et votre disponibilité.
Merci beaucoup.
Merci à Audrey Di Futia. Vous êtes à Venise.
Merci Eric, merci beaucoup pour votre invitation. Bonne soirée et je vous attends à Venise.
Volontiers. Merci à Claire Galpin pour votre contribution dans cette émission.
Merci Eric, et puis moi, je voudrais terminer sur une citation de Loïc Perron, un grand voyageur à travers les mers, qui disait toujours que le plus beau voyage, c'est toujours celui qu'on n'a pas encore fait.
Absolument.
Merci. Ça m'encourage à aller à Venise prochainement. Merci à Lionel Runanira Gariba qui assure la mise en onde. Eric Manirakiza était avec nous à la présentation. Je vous retrouve la semaine prochaine dans